Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui un nouveau fichier avec le chapitre 16 de Saint Matthieu. Donc c'est un fichier qui va contenir les explications des pères à partir du chapitre 16 jusqu'au chapitre 20. Donc vous avez le polycopié donc sur le site, c'est un polycopié qui contient donc toutes les explications des pères, au moins le résumé, chapitre 16 à 20. Vous voyez que les choses n'avancent pas très vite, en un an, à raison d'un cours par semaine, donc 53 ou 55 cours, je ne sais pas, eh bien j'ai fait 15 chapitres du premier évangile, il y a 4 évangiles. Et donc, il me faudra à ce rythme-là peut-être 7 ou 8 ans avant que je n'ai terminé l'explication que je vous donne sur les pères de l'Église, à partir des pères de l'Église sur les évangiles. Ceci doit vous faire comprendre, mes bien chers frères, la richesse de l'explication donnée par les pères. Encore une fois, celui qui possède les pères de l'Église possède l'esprit de l'Église. Nous ne cherchons pas, surtout dans le domaine de l'exégèse, de l'explication des textes sacrés de la Bible, ne cherchons pas à innover, ne cherchons pas à faire des choses nouvelles, expliquer de façon nouvelle. C'est Saint Pédis qui, à plusieurs reprises, condamne justement ceux qui ont l'amour des nouveautés. Et il dit bien que c'est une des racines du modernisme, l'amour des nouveautés. Et si l'Église catholique a une horreur de quelque chose, l'Église catholique a horreur des nouveautés en matière doctrinale, en matière d'interprétation de l'Écriture sainte. Interprétons l'Écriture sainte telle que l'Église catholique, par les pères, a toujours interprété ses textes pendant des siècles et des siècles. Cherchons pas des choses nouvelles. Loin de nous, mes bien chers frères, l'esprit de nouveauté dans ce domaine. Dites-vous bien aussi une chose, c'est que, bien qu'il me faudra peut-être 8 ans pour que je termine ce cours à ce rythme, dites-vous bien que je vous donne que une toute petite partie de l'enseignement des pères, en quelque sorte, vous voyez simplement la pointe de l'iceberg. N'oubliez pas que sous l'eau, on voit pas, il y a encore les 9/10 de l'enseignement des pères. Je ne peux pas tout donner, je n'ai pas les pouvoirs, le temps, ni la puissance de travail, ni l'intelligence pour aller à travers tous les pères, ce serait impossible. Je ne suis pas saint Thomas d'Aquin, donc je me contente d'aller chercher chez les bons auteurs, notamment saint Thomas d'Aquin et Cornelius à Lapidée et Père Thirier. Donc je vais chercher ce qu'il faut pour essayer de vous faire comprendre et vous faire aimer l'Écriture sainte. Donc, commençons avec ce chapitre 16 de Saint Matthieu, page 1 du polycopié, versets 1 à 4. Voilà ce que dit le texte. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus pour le tenter, et ils le prièrent de leur faire voir un signe qui vint du ciel. Mais il leur répondit, « Le soir venu, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rougeâtre. » Vous savez donc discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas connaître les signes des temps. Cette génération mauvaise et adultère demande un signe et ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Et les laissant, ils s'en alla. Un texte très intéressant. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ laisse littéralement en plan les pharisiens, les sadducéens qui demandaient un miracle en fait. Ils demandaient un signe, un autre miracle. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui lit dans les cœurs, avait vu que dans les cœurs de ces pharisiens, de ces sadducéens qui s'approchaient de lui, il n'y avait pas d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté spirituelle. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ne cherchant pas la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut rien faire pour eux parce qu'ils ne cherchent pas le vrai. Ils cherchaient simplement à troubler notre Seigneur Jésus-Christ, à trouver une faille dans son raisonnement, quelque chose de ce genre. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de ça, ne répond pas à ces questions et ne fait pas le miracle. Notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas de miracle sans raison proportionnée. Donc c'est une chose très importante pour nous. On a tendance aussi, nous aussi, à vouloir un petit peu exiger des miracles. On voudrait des signes tout de suite. Surtout actuellement, beaucoup de ces dévacantistes se découragent parce qu'ils veulent un signe, ils veulent un miracle du bon Dieu, ils veulent que le bon Dieu nous envoie demain matin, dès demain matin, une nouvelle Sainte-Jeanne d'Arc pour que les choses se remettent en place et qu'on ait un nouveau Saint-Pélice. Et le bon Dieu n'est pas obligé de répondre à nos demandes. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Donc ne cherchons pas à avoir des signes extraordinaires. Alors ce qui est intéressant dans ce texte, d'après les pères, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ donne deux phrases. Première phrase, le soir venu, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et ensuite, deuxième phrase, le matin, vous dites, il y aura de l'orage car le ciel est sombre et rougeâtre. En fait, c'est deux phrases différentes. Et qu'est-ce que représentent ces deux phrases? Eh bien, les pères de l'Église nous disent que ces deux phrases font une allusion au double événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Premier événement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'avènement par l'incarnation, qui se termine avec la passion, la résurrection de notre Seigneur, et son ascension au ciel. Et la deuxième phrase parle du second avènement à la fin des temps. C'est que l'Église catholique enseigne qu'à la fin des temps, il y aura une conflagration universelle, que la création telle qu'on la connaît ici-bas sur la terre sera complètement détruite par le feu, tous les hommes mourront, et il y aura le jugement général. Dieu viendra juger à Jérusalem, viendra juger tous les hommes. Il viendra avec le signe de la rédemption, le signe de la croix et tous les apôtres pour juger les vivants et les morts. Et donc il y a une double venue notre Seigneur Jésus-Christ. Première venue notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans, deuxième venue à la fin des temps. Il n'aura pas d'autre venue de notre Seigneur. Donc les Juifs qui attendent une venue de notre Seigneur Jésus-Christ n'auront que la venue à la fin des temps, pour leur malheur d'ailleurs. Il ne peut pas y avoir d'autre venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci nous aide à éliminer d'entrée toute une série de fausses apparitions qui parlent d'une autre venue de notre Seigneur. Ça arrive, on a des apparitions saugrenues comme ça. Je me rappelle quand j'étais au Mexique, il y avait à Mexico une apparition bizarre. Et la dame qui prétendait que notre Seigneur Jésus-Christ reviendrait pour dire la première messe dans l'autel de la grande église qu'elle avait fait construire. Et personne ne pouvait célébrer la messe, dans cette église, parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même devait venir en personne pour célébrer la sainte messe pour la première fois sur cet autel, dans cette église. On avait beaucoup de mal à expliquer aux gens, mais attendez, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas revenir. Il viendra à la fin des temps, pas avant. Certes, il revient caché sous les apparences eucharistiques, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité à chaque messe, mais il ne viendra pas en personne pour célébrer la messe. C'est pas possible, c'est un contre-enseignement de l'Église. Donc, attention à cette distinction, justement, que font les pères entre le premier avènement et le deuxième avènement. Voilà le texte. Les paroles du Seigneur, page 1 sur le polycopier, donc le polycopier des chapitres 16 à 20. Donc attention, c'est un nouveau polycopier, du chapitre 16 à 20, page 1. Les paroles du Seigneur, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Ces paroles peuvent signifier, disent les pères, que la rémission des péchés est accordée dans le premier avènement par le sang que Jésus-Christ a versé dans sa passion. Et les autres paroles, deuxième phrase, le matin vous dites il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Ces deuxièmes paroles doivent signifier le second avènement du Christ qui sera précédé par le feu avant le jugement général de tous les hommes. Première phrase, fera beau, le ciel est rouge. Donc cette rougeur du ciel représente, d'après les pères, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui répand son sang et qui va rougir justement la terre de son propre sang. Donc cette première phrase fait allusion à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui ouvre son cœur sur la croix et donne, qui va donner pour la rédemption du genre humain jusqu'à la dernière goutte de son sang. Premier avènement, donc, c'est le sang que Jésus-Christ a versé dans sa passion. Deuxième avènement, il y a de l'orage. Le ciel est sombre et rougeâtre. Donc, cet orage, dans l'orage, si vous voulez, il y a le feu des éclairs. Eh bien, cet orage, disent les pères, représente le feu avant le jugement général de tous les hommes, avant ce feu de la conflagration universelle à la fin des temps. Et donc, on voit très bien la double venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Première venue il y a 2000 ans, deuxième venue à la fin des temps. J'insiste aussi sur le fait que nous ne connaissons pas la date de la fin des temps. Donc, ne faites pas comme les témoins de Jéhovah qui sont toujours en train de chercher des choses extraordinaires. qui veulent annoncer la fin des temps. On n'en sait rien, on ne connaît pas la fin des temps. Est-ce que nous sommes à la fin des temps? On ne sait pas. Nous sommes vraisemblablement à la fin d'un temps, mais pas forcément à la fin des temps. Donc faire attention à ces choses-là. Pas vouloir tout constamment penser à la fin du monde. Les gens nous en parlent beaucoup trop souvent. La fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, elle arrive. On n'en sait rien, moi. Je sais rien si la fin du monde va arriver. Elle arrivera peut-être demain matin, peut-être ce soir, ou peut-être dans 10 000 ans. Nous ne savons pas du tout si nous sommes à la fin des temps. Donc attention, ne pas raconter de bêtises sur ce sujet. Le point important, me paraît-il, dans ces quatre versets, premier verset du chapitre 16 de Saint Matthieu, on voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ laisse en plan ces pharisiens, ces sadducéens qui s'approchent de lui pour le tenter. Le texte dit bien, ils viennent pour le tenter. Ils ne viennent pas à lui pour trouver la vérité. Ils ne viennent pas à lui parce qu'ils cherchent le vrai. Ils viennent pour tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ refuse de leur donner le signe, il refuse de faire un miracle, et les laissant, ils s'en allent. Donc pourquoi est-ce que je cherche notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je cherche notre Seigneur Jésus-Christ pour le tenter? Ou est-ce que je cherche notre Seigneur Jésus-Christ par amour du vrai, amour de la vérité? Vous voyez, c'est je crois très important. Lorsque les gens devant nous n'ont pas cet amour de la vérité, ne recherchent pas le vrai, eh bien, on ne perd pas de temps avec ces gens-là. Ils n'ont pas les bonnes dispositions. N'ayant pas les bonnes dispositions, on ne peut pas ouvrir les portes de la rame, on perd son temps à essayer de faire l'apostolat avec ces gens-là, parce que justement, ils n'ont pas l'âme ouverte par la grâce du bon Dieu. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va les laisser en plan et va s'en aller. Vous savez qu'il y a des gens avec lesquels moi personnellement je discute jamais avec les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils ne cherchent pas le vrai, ils cherchent à trouver la faille pour mettre le trou dans votre âme. C'est pas pareil. Et donc, quand les témoins de Jéhovah viennent me parler, ça arrive, ils voient une soutane et ils viennent parler avec la soutane, et pour essayer de mettre le trouble dans mon âme, et je refuse de parler avec eux de théologie. Et écoutez, on a commencé par dire un je vous salue Marie ensemble, après on verra. Et puis ils s'en vont courant, parce qu'ils refusent catégoriquement de prier la Sainte Vierge. Et un deuxième groupe de gens avec lesquels je refuse catégoriquement de parler, c'est les finéistes. Cette secte américaine, d'origine américaine, fondé par le père Finet, excommunié en 1953 par le pape Pie XII, parce qu'il niait le baptême de sang, le baptême de désir. Avec ces gens-là, moi je m'en vais en courant. Je refuse de discuter parce qu'ils ne cherchent pas le vrai. Ils ont contre tout l'enseignement de l'Église, du catéchisme du Concile de Trente, ils ont l'ensemble des pères de l'Église, ils ont les textes des catéchismes, ils ont l'enseignement général de l'Église pendant 20 siècles, mais ça fait rien, ils suivent leur volonté propre au lieu de suivre la volonté de l'Église. Je refuse de parler avec ces gens-là. Donc attention à ces choses-là. Donc pour résumer, donc deux allusions. Première allusion des pères de l'Église par la première phrase, le ciel est rouge, demain il fera beau. C'est l'allusion à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui va rougir de son sang encore une fois la terre sur laquelle est plantée la croix. Deuxième phrase, il y a de l'orage aujourd'hui, le ciel est sombre et rougeâtre. Donc c'est là cet orage. Cet orage avec les éclairs de feu représente le feu de la conflagration générale avant le jugement général de tous les hommes à Jérusalem. Il y a d'autres symboles qu'on trouve, d'autres explications. Les pères de l'Église ne sont pas forcément d'accord entre eux. Donc je vous lis d'autres explications données par les pères. Le ciel est sombre et rougeâtre, c'est-à-dire les apôtres auront à souffrir après ma résurrection et vous pouvez savoir qu'après eux je dois exercer mon jugement. Donc de même que notre Seigneur Jésus-Christ va souffrir le martyr, va souffrir, il va donner jusqu'à la dernière goutte de son sang sur la croix le vendredi saint, mais de la même façon les apôtres Ils vont devoir imiter notre Seigneur Jésus-Christ, l'imiter dans sa mort. Si je refuse de mourir avec notre Seigneur Jésus-Christ, de tuer ma volonté propre, eh bien je ne pourrai pas participer à sa résurrection à la fin des temps, ou après mon jugement. Si je n'épargne pas les souffrances à mes serviteurs, à plus forte raison ne les épargnerai-je pas aux autres un jour à venir. Attention à cette phrase des pères qui est importante. Donc le bon Dieu n'est pas obligé de nous enlever toutes les croix. En général, c'est ce qui se passe, c'est le drame dans les milieux de la tradition, c'est que les gens ne croient qu'il leur tombe dessus une croix quelconque, ça peut être une croix financière, une croix familiale, une croix professionnelle, une croix, une épreuve. Et tout de suite, ils se mettent à genoux devant le bon Dieu en disant « S'il vous plaît, bon Dieu, enlevez-moi la croix, enlevez-moi la croix, enlevez-moi la croix le plus vite possible, j'en veux pas de cette croix. » Puis ils ne se rendent même pas compte que cette croix, c'est justement leur moyen de salut. Pourquoi voulez-vous que le bon Dieu vous enlève votre moyen de salut? C'est précisément la croix. D'être malade, il y a une raison, peut-être pour la maladie. Vous avez un cancer. C'est triste, c'est sûr que c'est triste. Peut-être bien que ce cancer va vous aider à sauver votre âme. Et une grosse épreuve dans la famille. Ben, le bon Dieu sait ce qu'il fait. Il peut utiliser cette épreuve pour convertir d'autres personnes. Vous voyez, donc, attention à ne pas se décourager et à pas forcément demander au bon Dieu immédiatement d'enlever la croix dès qu'il nous en envoie une. Le bon Dieu nous envoie des croix, pourquoi? À qui il envoie ses croix? Le bon Dieu envoie ses croix à ceux qu'il aime. Donc dans bien des cas, il ne faut pas dire au bon Dieu, s'il vous plaît, enlevez-moi ma croix. Il faut dire au bon Dieu, donnez-moi la grâce pour la porter cette croix. Pas pareil. Donc on cherche à perdre les croix, ça c'est le monde moderne. Plus de croix, plus de souffrance, plus de participation à la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Attention! Le bon Dieu, justement, par ces textes, nous annonce la persécution. Le ciel est rouge, c'est le sang, pas simplement le sang de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi le sang des martyrs. C'est pour ça qu'il dit que les apôtres, les pères disent que les apôtres auront à souffrir après ma résurrection. Donc c'est le sang des martyrs, les martyrs de toutes ces personnes qui vont mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, qui va rougir le ciel et rougir le sol de cette terre. Si notre Seigneur Jésus-Christ offre sa croix à ceux qu'il aime avant de leur dire dans son immense miséricorde, venez les bénis de mon Père, et on les récompense, et de les récompenser éternellement au paradis, ne serait-il pas conforme à sa justice qu'il impose des croix encore bien plus lourdes à porter aux réprouvés à qui il devra dire allez maudit au feu éternel? On ne peut pas vivre sans croix ici-bas, c'est impossible. Et donc attention, beaucoup de gens prient, mais ils prient exclusivement en demandant au bon Dieu d'enlever la croix. Voilà, bon Dieu me donne des bénédictions, merci, merci, merci mon Dieu, c'est magnifique, plus de bénédictions s'il vous plaît. Le bon Dieu donne une petite croix, une petite épreuve, petite désolation. Ah, mon Dieu, Père, catastrophe, les catastrophes, enlevez-moi vite cette désolation, cette épreuve que je peux avoir. Non, c'est pas ce que veut le bon Dieu. Le bon Dieu vous envoie une croix, pourquoi? Pourquoi? À quoi ça sert les croix? Ben, c'est pour le paradis, pardi. C'est pour ça qu'il envoie des croix. Et la croix, c'est quoi? C'est la participation à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au paradis que le chemin qui passe par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, par la croix du calvaire. Ces signes des temps, donc, dans la pensée du Seigneur, disent les pères, sur le paragraphe 4 de la page 1 du polycopier. Ces signes de temps, son avènement, l'avènement de notre Seigneur, sa passion, qui nous sont représentés par un ciel qui est rouge le soir, et la tribulation qui précédera son second avènement, la fin du monde, est figurée par un ciel qui, le matin, est sombre et rougeâtre. Vous voyez, donc, on retrouve la même idée chez beaucoup de pères. La rougeur du ciel qui représente la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Je suis venu actuellement comme un médecin, alors je viendrai comme un juge. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis venu en voilà ma divinité, alors je viendrai avec un grand éclat et toutes les puissances du ciel seront ébranlées. Ici, actuellement, ici-bas, nous pouvons utiliser la miséricorde du bon Dieu. N'oublions pas qu'au moment du jugement, à la fin des temps, lorsqu'il y aura la résurrection générale de tous les hommes qui sont passés sur la terre, ce ne sera plus le temps de la miséricorde, hein. Ce sera le temps de la justice. Actuellement, il y a l'usage de la miséricorde de Dieu qui est possible. Mais pas après la mort. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'on ne sera plus dans le temps, on sera dans l'éternité. Donc attention à cela et bien profiter de toutes les grâces que le bon Dieu nous donne aujourd'hui. N'oublions pas, encore une fois, que ces grâces, elles viennent par la croix. Pas de croix, pas de grâce. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que disent les pères en bas de la page 1. Pour la première venue du Christ, il y aura la sérénité de grâce. Mais pour la deuxième venue, à la fin des temps, ce sera l'orage de vengeance et d'enfer que Dieu causera pour éclater contre les réprouvés et montrer à tous la puissance de sa divinité. La deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin des temps, Jérusalem, c'est le triomphe du Christ roi. Notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans toute sa gloire et nous serons bien obligés à ce moment-là de le reconnaître. Même tous ces politicards autour de nous, ces politiciens autour de nous qui passent leur vie à essayer d'empêcher le royaume, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, ils sont bien obligés d'y croire. C'est un peu tard, parce qu'ils se présenteront devant lui les mains vides. Et là, il y a une belle phrase des pères en bas de la page 1. Beaucoup aujourd'hui sont des lynx dans les choses terrestres, mais des taupes dans les choses divines. Prudent dans le monde, insensé pour le ciel, avec une vue d'aigle pour amonceler de l'argent, mais myope et ignorant pour l'adoration de Dieu. Leur sagesse est dans leur porte-monnaie, mais ils sont sots dans les matières de conscience. À quel point cette phrase est-elle actuelle aujourd'hui? Lynx pour les choses terrestres, taupe pour les choses divines. Quand il s'agit de gagner de l'argent, d'augmenter notre pouvoir d'achat, alors là, tout le monde est d'accord. Mais pour les choses divines, on est devenu une taupe, on ne voit plus rien. Et c'est ça le drame, je pense. Aujourd'hui, actuellement, on est en pleine crise. Quand je résiste au secours, on est en pleine crise des gilets jaunes. Bon, très bien, un petit côté bien sympathique chez les gilets jaunes, surtout qu'ils ont eu la sagesse de faire leur contre-révolution en dehors du système syndical. Très bien, Deo gratias. Mais attention, 99,9% de ces gilets jaunes se révoltent, je les comprends. Ils se révoltent pour sauvegarder leur pouvoir d'achat, point final. Mais ils n'ont pas compris, l'immense majorité d'entre eux n'ont pas compris que la France est malade dans son âme, que les Français sont malades dans leurs âmes. Ça sert à quoi de sauvegarder notre pouvoir d'achat si on vit dans le péché mortel jusqu'au cou? Et ça, pratiquement, il n'y a pas un seul gilet jaune, ou très très peu qui ont compris ça. Heureusement, il y a quelques gilets jaunes catholiques, mais c'est quand même infinitésimal. Et donc attention, demandons bien au bon Dieu les grâces dont nous avons besoin, les grâces de lumière pour distinguer où sont les choses importantes. Le corps passe après l'âme. Le salut du corps, très bien, ça c'est la manifestation des gilets jaunes. Les gilets jaunes ne doivent pas oublier qu'il n'y a pas qu'un corps, il y a une âme derrière. Et que le salut de l'âme c'est bien plus important que le salut des corps. Donc préserver notre pouvoir d'achat au niveau corporel c'est une bonne chose, certainement. Mais il faut d'abord préserver notre pouvoir de rédemption qui nous est donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je suis en état de grâce? Ça, malheureusement, 99,9% des gilets jaunes n'ont pas compris ça. Et donc, c'est une fausse contre-révolution. Pourquoi? Parce qu'il manque l'essentiel. Le rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, la relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je relis, on peut vraiment faire méditer là-dessus. Beaucoup sont des lynx dans les choses terrestres. Alors pour gagner de l'argent, alors là, tout le monde est d'accord. Mais des taupes dans les choses divines, parce que la taupe, elle est aveugle, elle voit rien. Donc pour les choses divines, on voit plus rien, on comprend plus, on cherche plus à comprendre ce qui se passe, parce qu'il nous manque l'essentiel. Il manque l'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ. On est prudent pour les choses mondaines, mais terriblement imprudent pour les choses divines. On a une vue d'aigle pour amonceler de l'argent, on est myope comme des taupes, justement ignorant pour l'adoration du bon Dieu. J'aime bien la conclusion des pères, conclusion très moderne finalement. La sagesse de ces hommes modernes est dans leur porte-monnaie, car ils sont sots dans les matières de conscience. Français moyen, il bouge quand on touche à son portefeuille. Mais quand on touche à son âme, il ne réagit pas, parce qu'il n'a pas compris que l'âme est plus importante que le corps. Craignez ceux qui peuvent persécuter les âmes et pas ceux qui peuvent persécuter les corps, nous dit notre Seigneur. Donc les élus qui demeurent, en bas de la page 1, les élus qui demeurent à la compagnie du Seigneur, à la douceur du vrai pain qui est le Christ, ont oublié les besoins de rafraîchissement corporel. Donc les élus, justement, qui sont au ciel, n'ont plus besoin de consolation corporelle, consolation naturelle, parce qu'ils sont avec le bon Dieu. Et donc n'oublions pas ça dans les moments difficiles, les moments de persécution, les moments de grande, grande désolation. Eh bien, le bon Dieu nous donne les grâces. Il nous donne les grâces pour le ciel, il ne donne pas les grâces pour ici-bas. Bon, certes, il va nous aider à tenir le coup ici-bas, mais n'oublions pas qu'il nous crée pour le ciel. Passons à la page 2 du polycopier. Saint Matthieu, chapitre 16, versets 5 à 12. Les disciples de Jésus, étant passés sur l'autre rive du lac, avaient oublié de prendre des pains. Et il leur dit, « Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Mais ils pensaient, se disaient entre eux, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, dit, « Homme de peu de foi, pourquoi pensez-vous en vous-même que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous souvenez-vous pas des 5 pains distribués à 5 000 hommes et du nombre de paniers que vous avez emportés, ni des 7 pains distribués à 4 000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas ce qui n'est point au sujet du pain que je vous... Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est point au sujet du pain que je vous ai dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? » Alors ils comprirent qu'il ne leur avait pas dit de garder le levain qu'on met dans le pain, mais dans la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Donc le bon Dieu nous met en garde contre la fausse doctrine, le faux levain, le faux pain. Un pain qui apparaît extérieurement comme du pain, mais qui en fait qui n'est que de la bouillie pour chat. Donc c'est pas du pain qui va nourrir notre corps. Donc de la même façon que le vrai pain nécessaire pour nourrir le corps, de la même façon, le vrai pain spirituel est nécessaire pour nourrir l'âme. Donc, est-ce que je me préoccupe des choses spirituelles autant que je me préoccupe des choses corporelles? Le problème, c'est que, encore une fois, le forcé moyen, il bouge au moment où on touche à son portefeuille, on touche à son corps. Mais l'âme, il s'en occupe pas. Il voit pas la difficulté. Apprenons, mes bien chers frères, à comprendre où sont les choses importantes. C'est ça l'usage du don de sagesse. Le don de sagesse, c'est ça. Le don de sagesse va remettre la hiérarchie des valeurs dans nos âmes, nous faire comprendre où sont les choses importantes. Est-ce que je suis en état de grâce? Voyez? Au lieu d'être attiré constamment par les choses mondaines, les dernières nouveautés des choses mondaines, est-ce que j'assure d'abord l'essentiel, l'état de grâce? Est-ce que je suis en état de grâce? Et le reste, le bon Dieu s'en occupera. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous dit notre Seigneur, et tout le reste vous sera donné par le surcroît. Tout le reste, même les choses matérielles. Moi, je le vois constamment en tant que prêtre, à quel degré le bon Dieu s'occupe de nous. Vous voyez, il s'occupe de nous prêtres, pourtant, bon, je suis comme très très isolé là où je suis. Il y a des vaches, bon, c'est très bien, mais enfin, les vaches, elles viennent pas au cours de catéchisme, hein, ni au cours d'exégèse. Il y a des vaches partout, très bien, mais c'est vraiment très très isolé ici. Bon, et c'est vrai que parfois, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je perds pas un peu mon temps? Ben non, je perds pas mon temps, parce que le travail se fait grâce à Dieu, par le biais du site. Mais je me rends compte à quel point, ici, même sur un plan purement matériel, le bon Dieu s'occupe de nous. Comment je reçois, je dirais, quand j'en ai besoin, les dons matériels, parce que l'homme ne vit pas que de la parole du bon Dieu, il vit aussi de choses matérielles, hein, faut bien que je mange au moins une fois par jour. Et on voit à quel point le bon Dieu s'occupe aussi des choses matérielles, c'est incroyable. Mais il s'en occupe comme il faut, jamais trop. Si j'ai besoin de 150 euros pour payer une facture, je vais recevoir un chèque de 150 euros pour payer la facture. Mais je vais pas recevoir un chèque de 160 euros. Parfois, j'aimerais payer un peu. Mon Dieu, j'ai une facture de 150 euros à payer là. Vous pourriez pas faire un petit effort? Et s'il vous plaît, arrangez-vous pour que les donateurs m'envoient 300 euros. Comme ça, j'ai une petite réserve qui se fait. Ah non. Si je payais comme ça, je ne recevrais rien du tout. Et je reçois ce qu'il faut, pas plus. Et c'est comme ça que le prêtre qui fait confiance au bon Dieu a une réponse du bon Dieu. Bon, le bon Dieu permet, par les bienfaiteurs qui écoutent, qui travaillent sur le site, le bon Dieu permet justement que des gens généreux m'envoient régulièrement ou irrégulièrement un petit peu d'aide. C'est comme ça que je peux vivre, payer les factures. Payer les factures. Parce que nous aussi, on a les factures à payer, on a moins dans une famille, c'est sûr, parce qu'on vit très simplement. Mais le bon Dieu s'occupe de nous. Alors, voyons un petit peu les commentaires des pères sur ce... sur ce, cette partie-là. Donc, Dieu insiste, notre Seigneur Jésus-Christ ici insiste sur la providence divine. Hein, la providence divine. Hein. Et il dit bien, si le bon Dieu s'occupe des choses matérielles autour de nous, il nourrit les oiseaux du ciel et les animaux des champs, et bien de la même façon, il s'occupera de vous. Parce qu'il sait, pour lui, les âmes sont bien plus importantes que les corps. Remarquons encore combien les disciples de Jésus étaient loin de rechercher l'église de la vie, eux qui se préoccupaient si peu du nécessaire, qu'ils oubliaient même de prendre du pain, nourriture indispensable de notre faible nature. Vous voyez ? Donc ils vont et suivent notre Seigneur Jésus-Christ, et tous ces gens qui étaient là, la première, notre Seigneur Jésus-Christ fait ici allusion aux deux multiplications des pains. La première fois avec 5 pains distribués à 5000 hommes, deuxième fois 7 pains distribués à 4000 hommes. Eh bien, le bon Dieu, s'il est capable de nourrir tous ces oiseaux du ciel et de vêtir de splendeur les lys des champs, eh bien, il s'occupera de nous, il s'occupera de, matériellement de nous, mais il s'occupera comme il faut et pas comme nous voulons nous. Imaginez, si le bon Dieu devait écouter toutes les prières qui sont faites, n'importe lesquelles. Le nombre des gens qui attendent des miracles et qui ne méritent pas ces miracles. Il faut mériter un peu les miracles. Il faut aussi vivre un état de grâce pour que le bon Dieu nous aide de façon de manière plus facile. Ça arrive tout le temps. Les gens souvent reçoivent des coups de téléphone un peu bizarres comme ça. Monsieur l'abbé, vous pouvez prier un peu parce que demain j'ai un examen important. Ah bon. Je vais prier pour vous. Monsieur l'abbé, il faut bien prier pour que j'ai cet examen. Est-ce que vous avez travaillé la matière de l'examen? Ah ben non, j'ai pas eu le temps. Bon, vous n'aurez pas votre examen. Le bon Dieu ne va pas faire un miracle. Mais oui, il peut faire un miracle pour que j'ai mon examen. Le bon Dieu ne va pas faire un miracle pour vous donner l'examen si vous n'avez rien fichu pour pas préparer l'examen. Vous voyez? Alors, voyons ce que disaient les pères. Le levain. Donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ parle du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est le levain de l'hypocrisie. Le levain a une telle force que si on le mêle à la farine en petite quantité, il se développe bientôt et communique la saveur qui lui est propre à toute la pâte à laquelle il se trouve mêlé. Donc le levain mêlé à la farine va faire lever le pain et le pain va devenir mangeable. Il en est de même de la doctrine des hérétiques. Quelque faible que soit l'étincelle qu'elle aura jetée dans votre cœur, vous la verrez bientôt produire un grand incendie qui envahit l'homme tout entier. Donc encore une fois... Une petite erreur au début va donner des énormes erreurs à la fin. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas tolérer, même à des petits niveaux, l'erreur dans l'enseignement. Les choses sont fausses, ces choses sont fausses. Hein? Donc les hérétiques ont commencé par des petites choses, des petites erreurs, et puis après petit à petit, une fois qu'ils ont capté la confiance des gens, à ce moment ils demandent beaucoup plus. C'est comme ça qu'on travaille toujours tous les hérétiques. Regardez la puissance de destruction d'Albergoglio aujourd'hui. Bon, et bien, il a commencé par des choses qui apparaissaient petites au début. Et maintenant, il raconte n'importe quoi. Et deuxièmement, aujourd'hui, si Bergoglio demain venait à annoncer que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, je serais même plus étonné, capable de tout. Vous voyez ? Donc, attention à ça. Méfions-nous de l'hérésie, mes bien chers frères. Méfions-nous de l'hérésie. Ayons cette horreur viscérale de l'hérésie. Et si nous avons ce que Mgr Lefebvre appelait le nez catholique, nous serons protégés contre l'hérésie. Ouais. Aujourd'hui, on est habitué. C'est ça le drame. C'est que l'hérésie étant partout, on est habitué à boire cette hérésie avec l'eau. Vous voyez ? Donc, lorsque les choses sont hérétiques, elles sont hérétiques. On ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. On ne juge pas la personne, mais on juge l'hérésie. Quand Bergoglio vous sort que les musulmans sont des enfants de Dieu, je m'excuse, c'est faux. Ça s'appelle une hérésie. Mais il n'est pas possible qu'un pape dise des hérésies comme ça. Je suis entièrement d'accord avec vous, ce n'est pas possible qu'un pape dise des hérésies. Or, si cette personne qui se prétend pape sort des hérésies énormes, ça prouve quoi? Ça prouve qu'il n'est pas pape. Qu'est-ce que ça prouve? Donc, ici, notre Seigneur Jésus-Christ, d'après les Pères, parle de la confiance dans la miséricorde du bon Dieu et la confiance dans la divine providence. Le bon Dieu s'occupe de nous. Donc, il a nourri avec les 7 pains et les poissons. Donc, il a nourri des milliers de personnes. 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, disent les évangiles. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 7, 8, 9, 10 000 personnes. 10 000 personnes qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Et notre Seigneur Jésus-Christ va les nourrir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Qu'il peut faire toutes ces choses-là. Donc, s'il leur arrive maintenant d'être presque sans pain, ils seront sans crainte et apprendront à mépriser jusqu'aux nécessités de la vie. Donc, si le bon Dieu, en plein désert, est capable de nourrir 10 000 personnes, eh bien, il va s'occuper de nous, ça c'est sûr et certain. Donc, la doctrine hérétique, disent les pères, n'est au début qu'une étincelle dans la poitrine, mais elle va rapidement grandir pour devenir une flamme formidable qui va prendre possession de l'homme tout entier. Si une petite étincelle commence le feu quelque part, au début, on ne voit rien. Parce que le feu couve sous les branches, on ne voit pas. Puis quand on voit le feu qui commence à enflammer tout, c'est trop tard. Donc méfions-nous de l'hérésie. On ne peut pas pactiser avec l'hérésie, c'est absolument impossible. C'est pour cela que la Sainte Église considère les hérésies comme bien plus dangereuses que la pire des épidémies. Rappelez-vous ce que disait Blanche de Castille à son fils, Saint-Louis. « Beau-fils, j'ai préféré vous savoir mort à mes pieds que de savoir que vous êtes coupable, vous avez été coupable d'un seul péché mortel. » Et Saint-Louis n'avait jamais oublié la leçon. Après, quand il parlait à son sénéchal, Saint-Joinville, eh bien, il posait la question souvent à Joinville pour essayer d'expliquer les choses. Qu'est-ce qui serait pire pour vous? Attraper la peste ou de commettre un péché mortel? Joinville, qui avait les pieds sur la terre, un peu trop, a répondu au roi, moi je préférais avoir la peste, je préférais commettre un péché mortel plutôt que d'avoir la peste, parce que le péché mortel, on va se confesser, on l'efface, mais la peste, elle ne s'enlève pas comme ça. Et il s'est fait remettre en place vertement par Saint-Louis, qui lui a dit non, parce que la peste s'attaque le corps, mais le péché mortel s'attaque l'âme. Donc, est-ce que nous considérons les hérésies autour de nous comme plus dangereuses que les pires des ennemis, disent les pères. Mieux vaut mourir, couper en morceaux, plutôt que d'accepter l'hérésie. Donc, si un État saint place en quarantaine des individus qui développent des signes extérieurs d'une nouvelle épidémie, afin de préserver les habitants de la contamination générale, à plus forte raison, l'Église doit-elle isoler les malades spirituels susceptibles d'envoyer au feu éternel une grande quantité de fidèles. Donc il faut couper, malheureusement, c'est pénible, il faut couper avec les gens qui cherchent à nous mener en enfer. Faites attention, protégez vos enfants, parents qui m'écoutaient sur Internet, protégez vos enfants, pour que vos enfants n'aillent pas constamment, en contact avec des hérétiques. C'est dangereux pour des enfants, par exemple, d'être constamment en contact avec peut-être d'autres, des enfants qui sont peut-être bons naturellement parlant, mais par exemple qui ne sont pas de la même religion. Ils sont protestants, par exemple. Là, c'est sûr que vous préparez le terrain pour bien des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une pente glissante. Ah, mais les protestants à côté, les voisins, ils sont très sympathiques. Ils sont peut-être très sympathiques, mais c'est des protestants. Donc, si vos enfants sont habitués à jouer constamment avec les petits protestants qui habitent la porte à côté, la maison à côté, petit à petit, ils risquent de se faire convertir au protestantisme. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre au moment de l'apostasie du roi Henri VIII. Tout le monde a suivi Henri VIII. Regardez ce qui s'est passé dans des endroits qui étaient des piliers de chrétienté. Prenez l'exemple de l'Afrique du Nord, par exemple. Surtout dans la Tunisie actuelle, la Libye actuelle, ces zones-là, donc au sud de la Méditerranée, étaient le siège d'évêchés extraordinaires pendant les premiers siècles de l'Église. Saint Augustin était en Tunisie actuelle. Saint Cyprien était aussi en Afrique du Nord. Il y avait des centaines et des centaines d'évêchés avant l'arrivée de l'islam. avec des milliers et des milliers de chrétiens, peut-être même des millions. Et puis l'islam est arrivé, regardez ce qui reste maintenant. Où est passée la chrétienté d'Afrique du Nord? Où est passée la chrétienté de tous ces pays qui bordent le sud de la Méditerranée? Ils sont tous passés dans l'hérésie, tous. Pratiquement plus de chrétiens. Et le bon Dieu permet parfois justement des chutes de ce genre parce qu'on compte trop sur nous-mêmes. Pourtant, ils ont eu des saints extraordinaires. Les grands docteurs de l'Église, les pères de l'Église, beaucoup étaient de ces régions-là. Donc, écoutons ce conseil des pères. Donc, si on place en quarantaine des individus pour éviter la contamination des corps, à plus forte raison, doit-on isoler les malades spirituels susceptibles d'envoyer au feu éternel une grande quantité de fidèles. Imaginez un peu le nombre de gens qui se sont damnés à cause de l'apostasie d'un Henri VIII. Imaginez le nombre de gens qui se sont damnés à cause de l'apostasie d'un Luther. Et Henri VIII était un grand ami du pape au début. Défenseur de la chrétienté. Luther était un prêtre. Un moine augustin. Et comment il a fini? Arius était un religieux, un clerc. Regardez comment il a fini. Alors, mes bien chers frères, faisons un petit peu attention à ces choses-là et protégeons nos âmes de l'hérésie. Parce que l'hérésie, malheureusement, est partout. Et même, par exemple, avec l'hérésie moderniste, faisons très attention. Faisons extrêmement attention. Vous avez, par exemple, des voisins qui sont des gens qui vont habituellement à la nouvelle messe. Bon, les enfants sont peut-être des bons enfants, je dis pas le contraire, mais faites attention, parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous faire contaminer, vos enfants vont être contaminés. Vous n'accepteriez pas que vos enfants aillent parler avec des pestiférés. Eh bien, les gens qui vont habituellement à la nouvelle messe, qui ont accepté la nouvelle messe, qui regardent la télévision en longueur de journée et qui habillent leurs enfants n'importe comment, sont des pestiférés sur le plan spirituel. Il faut nous protéger. À plus forte raison, l'Église doit-elle isoler les malades spirituels susceptibles d'envoyer au feu éternel une grande quantité de fidèles? Protégez vos enfants, protégez-vous vous-même. Combien de gens des années 50 ont perdu la foi alors qu'ils avaient la foi au début? Peut-être une foi faible, mais ils avaient la foi. Ils ont perdu la foi, pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à trop regarder la télévision. Ils ont commencé à arrêter d'étudier. Ils ont commencé à lire beaucoup de prêtres. Au niveau des prêtres, c'est une catastrophe. Beaucoup de prêtres sont devenus des modernistes autour des années 60 parce que, au lieu de lire saint Thomas d'Aquin, ils ont commencé à lire La vie catholique ou pas, ou le Pèlerin Magazine, ou la Croix, ou des journaux de ce genre, et qui ont contaminé toutes ces âmes en amenant le modernisme à l'intérieur des âmes. Regardez par exemple les dégâts provoqués par l'action catholique qui suivait les idées de Marc Sanguinier, qui a été condamné par le pape Saint-Pie X en 1910, avec l'encyclique Notre Charge Apostolique. Eh bien, beaucoup de gens, si vous voulez, le modernisme a été préparé, il faut pas oublier ça, le modernisme a été préparé par des gens, justement, qui se sont pas suffisamment isolés des hérétiques. Et l'hérésie est passée dans les âmes. Une espèce d'aveuglement spirituel qui fait que les gens se sont même pas rendus compte, ils ont avalé l'iniquité comme l'eau. Regardez ce qui s'est passé, regardez un petit peu ce qui est devenu la France, un pays de mission. Un gigantesque cloaque. Donc, étudions, mes bien chers frères. Nécessité d'études. On ne peut pas arriver à tenir le coup aujourd'hui sans études. Et là, une petite note que j'ai trouvée dans les livres que j'ai regardés pour préparer ces cours. Tel fut le rôle de l'Inquisition. Tant décrié aujourd'hui par les libéraux ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Inquisition qui préserva de la contamination spirituelle, de la mort éternelle des milliers d'individus. Donc l'âme est plus importante que le corps, car c'est par son âme que l'homme est dit avoir été créé à l'image et à la ressemblance de son créateur. Bon, bien sûr, ça c'est pas les pères qui parlent. Je ne sais plus où j'ai trouvé ce texte. Mais l'inquisition est arrivée après les premiers pères de l'Église, c'est absolument évident. Mais il y avait déjà une inquisition autant des premiers pères de l'Église. Lorsque Arius a commencé ses bêtises, ben, des évêques se sont levés, pas beaucoup. Et parce que justement les évêques ne sont pas levés assez vite contre Arius et l'arianisme, qui niaient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, rien que ça, eh bien le monde s'est réveillé à rien. Pratiquement tout le monde est venu à rien. Et il a fallu le concile de Nicée et des géants de sainteté comme saint Athanase par exemple ou saint Hilaire pour arrêter l'hérésie. Et là, vous êtes, enfin, en bas de la page, de page 2, vous avez cette phrase importante. La préservation des âmes est bien plus importante que la préservation des corps. Les souffrances d'ici-bas ne sont que pour un temps, alors que celles d'après la mort sont pour toute l'éternité. Donc, méfions-nous de ceux qui peuvent amener les âmes en enfer. Méfions-nous des loups déguisés en agneaux, parce qu'ils ont mis une peau de brebis sur les épaules. Je voudrais dire deux mots, puisque ici, notre Seigneur Jésus-Christ parle de la nécessité, si vous voulez, d'une certaine forme d'inquisition pour nous protéger des idées qui détruisent nos âmes. Je voudrais rapidement vous rappeler, justement, l'importance de l'inquisition. Quand on parle d'inquisition aujourd'hui, on a l'impression qu'on invoque le démon. L'inquisition est une chose qui a énormément fait de bien dans l'Église. Encore faut-il connaître ce qu'est l'inquisition. Pour ceux que ça intéresse, je le cite dans la lettre doctrinale numéro 54, c'est sur le sujet de l'inquisition, avec la conférence d'une heure et demie qui correspond. Donc revenez à ça si vous n'avez pas idée claire sur le sujet. Dès qu'on parle d'inquisition, on fait frémir la plupart des gens, tout de suite que ça évoque des nuages de fumée, des sinistres bûchers qui brûlent des milliers d'hérétiques sous le regard narquois des grands inquisiteurs qui étaient des sadiques de la pire espèce. Donc il faut enlever cette légende noire et avoir la fierté justement de protéger notre foi. C'est ce qu'a fait la Sainte Inquisition. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la Sainte Inquisition. Mais malheureusement, cette légende noire, les inquisiteurs qui tuaient les corps par millions, littéralement d'après le monde moderne, eh bien on n'a pas compris justement le bien qu'a fait l'Inquisition pour protéger les âmes. Et donc cette légende noire, elle a la vie dure, elle est régulièrement ressuscitée par des historiens bien peu scrupuleux. Je vais vous relire ici un petit excursus de quelques minutes justement sur l'Inquisition, parce qu'il y a trop de bêtises qui sont dites sur ce sujet. À partir de cette lettre numéro 54, quelques petites choses justement sur l'Inquisition pour remettre les idées à l'endroit dans les cervelles. Donc dans cette lettre, je citais des ennemis de l'Église, des historiens ennemis de l'Église. Voilà la citation de Léa et Tannon, deux historiens modernistes et modernes, avec les idées modernes bien sûr. Pratiquement, disent-ils, celui qui tombait entre les mains de l'Inquisition n'avait aucune chance de salut. La victime était enveloppée dans un réseau d'où elle ne pouvait s'échapper. Chaque effort qu'elle faisait ne servait qu'à l'y impliquer davantage. Tous les moyens ordinaires de justification étaient à peu près interdits à l'accusé. Ils étaient jugés sur des pièces qu'ils n'avaient jamais vues, émanant de témoins dont ils ignoraient l'existence. Avec un blasphème épouvantable à la clé, il disait « Saint-Pierre et Saint-Paul, s'ils avaient vécu du temps d'inquisition et avaient été accusés d'hérésie, se seraient vus dans l'impossibilité de se défendre et auraient été infailliblement condamnés. » Et qu'est-ce que répond l'Église catholique à ces calomnies ? L'homme est une créature raisonnable, composée d'un corps et d'une âme. L'âme est immatérielle, spirituelle, ne peut pas être détruite, donc l'âme est plus importante que le corps. La vie donc de l'âme, vie spirituelle, est plus importante que la vie du corps ou vie physique. Donc celui qui détruit l'âme du prochain, par le péché de scandale, commet un mal infiniment plus grave que celui qui détruit le corps du prochain. Rappelez-vous les citations de notre Seigneur. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille et les vers détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel où ni la rouille ni les vers ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut précipiter le corps et l'âme en enfer. Malheur par qui le scandale arrive. Celui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou une meule qu'un âne tourne et qu'on le précipitât au fond de la mer. Alors qu'en fait... L'inquisition, c'est une protection naturelle et surnaturelle de l'Église. Il vaut mieux pour le berger éliminer rapidement la brebis mâle galeuse que d'attendre que tout le troupeau soit contaminé. C'est du bon sens élémentaire. Et saint Paul dit, reprenez les pécheurs devant tout le monde pour que les autres éprouvent une sainte frayeur, une salutaire frayeur. Et saint Thomas d'Aquin, quand la faute est connue du public, il faut porter remède au mal du pécheur, comme à celui de ceux qui ont connu son péché, afin de prévenir ou de réparer la contamination et le scandale de ce qui implique la dénonciation. Voilà pourquoi il y avait une inquisition. L'hérétique, qui ne veut pas arrêter de détruire les âmes malgré des efforts de correction, malgré tous les efforts de correction, ne mérite pas simplement l'excommunication par l'Église, mais d'être exclu du monde par la mort, dit saint Thomas. Corrompre la foi catholique est pire que falsifier la monnaie, ce que les princes séculiers punissaient à juste titre de la peine de mort. Donc le péché d'hérésie est logiquement considéré comme le plus grave des péchés. Il consiste à nier la véracité de Dieu, c'est une injure au Créateur. Donc si cette hérésie se diffuse par le mauvais exemple, il devient un fléau social qui doit être sanctionné non seulement par l'autorité religieuse, mais aussi par l'autorité politique. Donc si l'hérétique refuse d'arrêter de détruire l'âme du prochain, il faut le mettre hors d'état de nuire pour protéger les âmes de la société politique. Bien sûr, attention, aucune conversion ne peut être obtenue par la force. Car Dieu, maître de tout, n'a besoin ni d'obéissance forcée, ni d'adoration contrainte. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ met ses apôtres en garde contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens. L'Église catholique a toujours donc défendu le principe de la légitimité de la peine de mort dans certains cas. Il suffit de méditer les prescriptions de Dieu que l'on trouve dans l'Ancien Testament pour protéger le peuple de Dieu de la corruption et de l'idolatrie. La foi catholique, n'oublions pas, est le plus grand bien que puisse posséder une âme. La perte de la foi est le plus grand malheur qui puisse arriver à une âme, car la foi est nécessaire au salut de cette âme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. N'oublions pas ce que disait Voltaire, mentez, il en restera toujours quelque chose. Il fallait écraser l'infâme, écraser l'Église catholique. Et bien, en face de nous, on a des gens qui mentent à longueur de journée. Donc le tribunal de l'Inquisition, le tribunal du Saint-Office de la foi, contrairement aux calomnies répandues partout par des pseudo-historiens, était d'une extraordinaire rigueur morale et notre justice nationale ferait bien en prendre de la graine. On peut donner quelques exemples significatifs. Pour le faire comprendre, justement, qu'il valait beaucoup mieux être jugé par les tribunaux de la Sainte Inquisition que par les tribunaux révolutionnaires de 1789, ou par certains tribunaux contemporains. L'Inquisition était 1000 fois plus objective et humaine que la LICRA ou Amnesty International. Donnons quelques exemples. Ce sont des exemples historiques, mais évidemment, les gens n'en parlent plus. Si par l'édit de foi, quiconque connaissant un hérétique était obligé de le dénoncer, par l'édit de grâce qui pouvait durer un mois, tout hérétique pouvait demander son pardon s'il se dénonçait lui-même spontanément. Les accusés avaient le droit à une défense, avec la protection de plusieurs avocats et les faux témoignages étaient très fortement réprimandés. Seuls seront condamnés et livrés aux bras séculiers les hérétiques obstinés. Les papes exigeaient des inquisiteurs des garanties d'âge, d'intelligence, d'honorabilité, de science. Certains inquisiteurs furent même canonisés par l'Église. Je pense à Saint-Jean de Capistran ou Saint-Dominique. Les prévenus étaient invités à déclarer leurs ennemis mortels et la raison de leur inimitié. Et ces personnes, si elles figuraient parmi les dénonciateurs ou les témoins à charge, étaient immédiatement récusées par l'inquisiteur. Ses assesseurs et les bonivéristes et les jurés laïcs qui étaient là pour garantir également l'impartialité du jugement. La torture, contrairement à ce qu'on dit, était très peu pratiquée, toujours afin d'éviter un mal plus grand, contrairement à ce qui se passait parfois dans les tribunaux civils. Y en a-t-il à quelqu'un l'idée de vilipender celui qui obtiendrait de cette façon les aveux d'un terroriste, permettant par là de sauver la vie de plusieurs milliers de personnes? Dieu veut non la mort du pécheur, mais sa conversion. Donc sur ce sujet, comme sur d'autres, des écrivains à sensation peu scrupuleux ont exploité la crédulité publique. Autre donnée historique sur l'Inquisition, l'acquittement était très fréquent, 1 sur 6, soit 18%. Les condamnations à mort par le bras séculier, par le bûcher, étaient rares. Ainsi, pendant la durée de fonction d'un inquisiteur très connu, qui s'appelait Bernard Guy, de 1308 à 1323, il y eut 42 condamnations à mort, en 15 ans, il y a 3 par an. Aujourd'hui, les historiens modernes vont vous dire qu'il y avait des millions de morts brûlés à petit feu par les inquisiteurs. Ceux qui étaient condamnés à des peines de prison et même le droit de sortir pour s'occuper de leur famille et soigner leurs vieux parents. Donc, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le but de ce cours. Donc, c'est un peu un excursus que je fais là, mais... Il faut comprendre justement les journaux modernes, les livres modernes mentent à longueur de journée. Il faut suivre ici le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande de nous mettre en garde contre le levain des hérétiques. Donc je relis simplement la conclusion de ma lettre que j'avais écrite il y a longtemps sur l'Inquisition. Par exemple, à propos de l'Inquisition espagnole, à l'heure actuelle, en dehors des documents précis et limités à tel tribunal ou à telle époque, il est impossible de prétendre imaginer le total des victimes du Saint-Office. Après l'enquête la plus rigoureuse et la plus étendue jamais faite sous le règne d'Isabelle la catholique, 1480 à 1504, Ascona tire cette conclusion quant aux victimes de l'Inquisition, les condamnés à la peine de mort durant le règne d'Isabelle, c'est-à-dire pendant 24 ans, ne dépassèrent pas quelques centaines. Alors, mes bien chers frères, il faut, je crois, vraiment demander au bon Dieu cette lumière de la foi. C'est ce qu'avaient les pères de l'Église. Les pères de l'Église avaient cette lumière de la foi, avaient compris l'importance de la foi catholique. Donc, il faut méditer sur ces textes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui met en garde, donc, contre le levain, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ce levain des pharisiens et des sadducéens, c'est l'hérésie. La doctrine, d'ailleurs, le dit expressément au verset 12. Les apôtres comprirent que notre Seigneur ne leur avait pas dit de garder du levain qu'on met dans le pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Protégeons nos âmes, mes bien chers frères. Protégeons les âmes de nos enfants. Page 3. Donc, nous avons un texte là extrêmement important sur lequel il faut longuement insister. C'est le fameux texte de Matthieu 16, 18 sur l'autorité pontificale. Je vous dis que vous êtes pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. Et je vous donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Donc nous verrons ça. Si Dieu veut, la semaine prochaine. Donc, encore une fois, je vous conseille fortement à ceux qui écoutent ces cours, peut-être pas beaucoup, mais il y a quand même des gens qui écoutent ces cours, j'espère, pour travailler un peu, donc de relire, après à la fin du cours, relisez la page du polycopier qui correspond au cours, ici, page 1 et 2 du chapitre 16 de Saint Matthieu, dans le polycopier qui couvre tous les chapitres 16 à 20 de Saint Matthieu. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.